Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. On le connaissait comme cardinal et comme homme politique, Mazarin, Jules de son prénom. Fut, faut-il le rappeler, le premier ministre de Louis XIII, le parrain du futur Louis XIV et le vrai détenteur du pouvoir sous la régence aux côtés de la reine-mère Anne d'Autriche jusqu'en 1661. Un politicien roué d'origine italienne qui commit un opuscule intitulé « Bréviaire des politiciens », ce qui lui permet aujourd'hui, plus de 300 ans après sa mort, de devenir auteur de théâtre par la grâce d'un clown blanc en costume cravate et de sa servante qui ne dit mot. De cet ouvrage de conseil, souvent avisé, parfois cynique, François Génie a fait un spectacle qui révèle par les mots et par les corps comment se conquiert et s'exerce le pouvoir, et force est de constater que plusieurs siècles après, il est toujours autant d'actualité. Politicien est à l'affiche du Théâtre des Déchargeurs, du mercredi au samedi jusqu'au 26 novembre. François Génie est avec nous en compagnie de sa partenaire Marine Barbary, et vous m'en direz des nouvelles.
Certains pensent que les gens incultes sont une menace pour une ascension harmonieuse. C'est vrai. Non pas que leur pouvoir de nuisance soit supérieur à toute autre personne, mais la limite de leur intelligence peut créer quelques désagréments qui, sans empêcher ton ascension, t'obligent à de nécessaires ajustements permanents. Tu reconnaîtras les gens incultes à ce qu'ils mettent trop d'éclat en toute chose. La décoration, le mobilier, leur habillement. Ils éclatent de rire quand quelqu'un fait une faute de grammaire, pour signaler qu'elle ne leur a pas échappé. Évitez les gens incultes.
Bon, le ton est donné. Bonjour François de Génie.
Bonjour.
Bonjour Marine Barbary.
Bonjour.
Ah, mais vous parlez donc Marine Barbary. Merci beaucoup de cette bonne surprise. Ça me rassure un peu parce que à la radio c'est mieux. François Génie peut d'ailleurs en témoigner parce qu'il en a fait un petit peu de radio.
Alors, oui.
Il y a quelque temps. Merci en tout cas d'être là tous les deux. Alors François Génie, ce bréviaire des politiciens, il fait pas encore partie, mais peut-être qu'il va le devenir grâce à vous. Il fait pas encore partie des best-sellers que l'on peut retrouver dans toutes les librairies de France et d'ailleurs. Comment est-ce que vous l'avez découvert?
Oh, c'est la découverte, je la dois à un metteur en scène de théâtre qui s'appelle Jean-Louis Wilhelm. Et lors d'une représentation de Bérénice en 1985, donc ça fait déjà un petit moment, le livre venait de sortir et il m'a offert ça le soir de la première. Je jouais Paulin, qui est le conseiller de Titus.
L'empereur romain.
L'empereur romain. Et Paulin, vieux conseiller, madré, qui essaye de convaincre Titus de choisir plutôt le pouvoir que l'amour. Et le metteur en scène m'avait donné ce recueil le soir de la première. On se fait des cadeaux les soirs de première et il m'avait dit « tu sauras quoi en faire ».
Ah. Et depuis, et vous l'avez utilisé alors justement pour incarner ce personnage de Titus lors des différentes représentations de Bérénice?
De Paulin, non, je ne l'ai pas utilisé puisque là c'était le soir de la première, tout était déjà en boîte, si je puis dire, dans ma boîte crânienne. Mais non, alors j'ai lu ce livre et dès la première lecture je me suis dit il faudra un jour en faire quelque chose et j'ai attendu 37 ans pour le faire.
Les amis sont aussi les autres. Les gens de confiance sont aussi les autres. Mais dois-je te rappeler que la vigilance s'impose en toutes circonstances et que la confiance absolue est une chimère juste bonne à embrumer les esprits faibles. Aussi, ne crois pas qu'on n'ira pas te trahir. Si devant quelqu'un tu t'es comporté ou tu as parlé trop librement ou de façon trop grossière, ne fais confiance là-dessus à personne. Ni à un assistant, ni à une réceptionniste. Ces gens-là, d'un cas particulier, te font une réputation en conséquence. Aussi, ne te laisse jamais aller. Et n'espère pas que dans le doute, on te fera crédit. Sois même sûr du contraire.
Alors ce bréviaire, François Génie, c'est un vadémécum du politique ou c'est un vadémécum de la vie en général ?
C'est les deux, mais bon, c'est quand même Mazarin qui l'a écrit. Le cardinal Mazarin en connaissait un bout sur la politique, si je puis dire, sur la diplomatie. Il parlait plusieurs langues lui-même, même s'il prétend après qu'une mémoire encombrée étouffe l'intelligence, comme il le dit. Mais moi je pense que c'est vraiment pour les gens qui ont vraiment envie du pouvoir et qui sont prêts à mettre toutes leurs forces, toutes leurs énergies pour accéder au pouvoir. C'est un recueil comme tout cela. Alors, Mazarin lui-même, quand il, dans l'introduction de ce bréviaire, il dit que les actions humaines sont dues pour la plupart au hasard et que donc son recueil n'a pas de règles intérieures, c'est-à-dire qu'il n'a pas ordonné les choses et on pouvait en faire en gros ce qu'on voulait. Vous m'avez tout à l'heure demandé comment est venue l'idée d'en faire quelque chose au théâtre. Je signale quand même que moi, j'ai choisi une traduction, puisque Mazarin l'a écrit en latin, une traduction de Florence Dupont, et que quand je suis allé voir il y a 5-6 ans Florence Dupont chez elle pour lui demander l'autorisation d'utiliser sa traduction, elle m'a dit « Depuis 85, vous êtes la première personne à me demander les droits pour en faire quelque chose au théâtre. »
Ça vous a étonné.
Et ça l'étonnait elle-même. Elle disait « Je me demandais comment ça se faisait, que personne n'y avait pensé avant vous. »
Mais comment ça se présente alors ce livre, ce bréviaire des politiciens? Déjà, ce mot bréviaire, il y a tout de suite la dimension religieuse, mais pourtant quand on vous écoute pendant le spectacle, on n'a pas cette impression-là, quoi. La foi, le mal, c'est pas une question de morale au sens chrétienne du terme, même si c'est un cardinal qui l'a écrit.
Oui, mais c'est justement une des particularités de ce recueil, parce qu'il y a eu d'autres recueils, bien sûr. On pense au Prince de Machiavel,
forcément,
sur le pouvoir. On pense au livre de Francis Bacon, non pas le peintre, mais le conseiller de Jacques Ier d'Angleterre, dont Mazarin d'ailleurs s'inspire dans le Simule et Dissimule, puisque Francis Bacon avait écrit un livre qui est Of Simulation and Dissimulation.
Voilà, Simule et Dissimule, c'est l'un des passages du texte. On va sans doute l'écouter tout à l'heure.
Voilà. Et donc, non, justement, il n'y a pas la notion de bien ni de mal. Il y a une notion d'efficacité, point à la ligne. Il n'est pratiquement pas question de Dieu dans tout le bréviaire des politiciens. Moi, je n'en ai pris que quelques extraits, mais il n'est pas du tout question de ça. Il est question de soyons pratiques, soyons concrets. Que doit-on faire pour accéder au pouvoir et y rester? Et que doit-on ne jamais faire?
Alors, vous, avant de le mettre en scène, vous avez adapté ce texte. Il a fallu que vous le rendiez actuel, François Génie.
Pas vraiment. Sincèrement, la traduction de Florence Dupont est magnifique pour ça. C'est une langue très actuelle. J'ai de temps en temps changé quelques petits mots parce qu'ils pouvaient apparaître désuets, ou alors ils faisaient référence à l'histoire à proprement parler. Et je sais que le public aujourd'hui n'a pas forcément toutes les références historiques pour bénéficier du plaisir que l'on a de rencontrer ce genre d'occurrence. Mais pour tout dire, non, j'ai juste écrit un petit passage moi-même dans la langue de Mazarin, pour justement pour ce qui concerne Francis Bacon, pour pouvoir introduire Francis Bacon, parce que je trouvais que c'était important de mettre les deux auteurs ensemble, parce que à contrario de Mazarin, Francis Bacon, lui, fait référence à la foi en Dieu, au bien et au mal.
Mais est-ce que vous avez aussi rajouté quelques clins d'œil à l'actualité politique, pas forcément immédiate, mais de ces dernières années, ou c'est moi qui ai fait des rapprochements impromptus?
Il y a un seul clin d'œil volontaire.
D'accord. Alors, on va écouter un extrait, vous allez me confirmer si c'est celui-là ou pas. Extrait.
Tu peux, ce qui est souvent le mieux, accorder aux gens du peuple des faveurs qui ne te coûtent rien. Comme par exemple une remise de peine. Ou encore, tu as justement annoncé que tu allais créer un nouvel impôt injuste, et le moment venu, tu te rétractes. Tu bénéficieras ainsi d'une nouvelle popularité. Voilà un cadeau, un avantage qui ne te coûte rien et qui peut rapporter beaucoup. Ah, et fais-toi toujours le défenseur des franchises populaires. Ainsi, ils te croiront sincère dans un premier temps. Ce temps qui te permettra de mettre tes plans à exécution, si nécessaire. Car c'est notre projet.
Ouais, ces derniers mots m'ont fait penser à ça.
Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Bon, vous aussi, vous avez pensé à ça, François Génie. Il n'y a pas que moi qui vois le mal partout.
Non.
C'était Emmanuel Macron, évidemment, meeting voilà. Du premier tour de la campagne présidentielle de 2017.
Voilà, je me suis interdit de faire d'autres allusions, parce qu'il y a beaucoup de possibilités à travers le texte de Mazarin, oui. Mais celle-là, je n'ai pas pu y résister parce que je pense effectivement que Emmanuel Macron représente aujourd'hui, il est le président de la République française, c'est-à-dire le pouvoir absolu au niveau politique.
Absolu, attendez, au niveau réel, en démocratie quand même.
Oui, c'est un pouvoir absolu quand même, malgré tout. Non, je pense que ce sont les banques qui ont le pouvoir absolu, mais c'est un autre débat. Mais Emmanuel Macron, et effectivement, ça me revenait assez fréquemment de penser à lui à travers le texte de Mazarin, parce que je pense qu'il représente, ça n'est pas une attaque ad nominem.
Non.
Je n'en veux pas à Emmanuel Macron. Il n'est que le produit d'une société qui fait que les hommes politiques, quand ils veulent accéder à la magistrature suprême, doivent y penser en se rasant et donc doivent s'y préparer. Et à un moment donné, ce qu'il y a d'assez troublant d'ailleurs dans le texte de Emmanuel Macron et de la plupart des hommes politiques qui veulent accéder à la présidence, c'est de dire « je veux ». C'est comme si cela dépendait uniquement de leur propre volonté. Et ça, je trouve que c'est assez proche de Mazarin. C'est de dire « je veux, tu dois faire ça parce que je le veux, et si je le veux, ça doit arriver comme ça ». Et ça, je trouve ça absolument terrible, moi, en tant que citoyen.
Et c'est avec les trompettes de la Symphonie du Marais que vous faites votre entrée en scène, François Génir. Les spectateurs entendent cette musique versaillaise, très grand siècle, musique extrêmement pompeuse, mm-hmm. Et vous voient dans une attitude, on va dire, assez majestueuse, mais pas complètement conforme à ce que l'on pourrait imaginer. On ne va pas en dire plus, on va laisser évidemment les spectateurs le découvrir. Alors François Génir, Mazarin, on se dit que c'est un formidable personnage de théâtre. On se dit que vous auriez pu apparaître justement en Mazarin avec la moustache, la petite barbiche, la calotte, la soutane rouge cardinalis. Vous y avez pensé ou pas ?
Non, pas du tout. Non. Pour moi, l'actualité de ce texte était tellement forte que je me disais, non, il faut le jouer aujourd'hui, avec un costume d'aujourd'hui. C'est un homme politique d'aujourd'hui. La seule référence au passé, c'est effectivement quelques extraits musicaux qui font référence à la période de Mazarin, histoire de dire que rien n'a changé depuis. Puis en plus, j'adore la musique baroque.
Bon, alors, costume-cravate, hein, oui. très clairement.
Je précise d'ailleurs avec une un anecdote, détail, oui. C'est que le costume, c'est exactement le même costume que Emmanuel Macron.
C'est pas
je
possible.
L'ai acheté au même endroit. Oui, c'est. Et d'ailleurs, la couleur bleue foncée comme ça, chez ce couturier, il l'appelle le bleu Macron. Et il m'a raconté une chose incroyable, le couturier. Il m'a dit que depuis que Emmanuel Macron est venu acheter son costume et puis que ça s'est su dans la presse, etc., quantité d'hommes politiques, et pas seulement de son propre bord, viennent là pour avoir le même costume.
Ah, ça en dit long. Effectivement. Alors, petit détail quand même, vous portez très bien le costume, François Génie, mais vous portez aussi du maquillage, parce qu'il y a du blanc. Qui apparaît très vite dans la mise en scène. C'est vous d'ailleurs qui l'appliquez, Marine Barbary, du blanc sur votre visage et sur votre crâne, parce que vous êtes un clown blanc. Ça fait longtemps que vous êtes un clown blanc, François Génie.
Oui, je suis un clown blanc dès le début de ma tentative d'être un comédien quand j'étais jeune, parce que j'ai commencé par le clown et très vite les clowns qui me formaient m'ont dit « mais non, toi tu n'es pas un Auguste, tu es un clown blanc », c'est-à-dire celui qui représente l'autorité. Le clown blanc dans la tradition avait souvent un costume de paillettes et tout, de riche, quoi, de bourgeois, et c'est lui qui avait le savoir et qui mettait les choses en ordre, et l'Auguste mettait un peu le désordre partout. Et donc j'ai adoré jouer le clown blanc, et j'ai choisi là de faire le clown blanc pour faire aussi un parallèle avec l'univers du spectacle, où en fait la figure comique du clown blanc, qui est le faire-valoir de l'Auguste, représente effectivement le pouvoir.
Alors il peut être seul en scène un clown blanc ou pas ?
Je l'ai fait, je crois que je suis le seul clown blanc au monde à avoir fait un seul en scène, parce qu'il y a des seuls en scène de clown, mais c'est toujours des augustes, parce que c'est beaucoup plus drôle de voir des augustes se casser la gueule, alors que le clown blanc, c'est pas drôle, c'est un faire-valoir. Mais j'y suis arrivé, oui, c'était un spectacle qui s'appelait ça, par exemple, et je trouvais ça plutôt drôle, et c'était un clown blanc qui n'aimait pas grand-chose et qui surtout détestait les augustes.
Mais alors, dans ce bréviaire, qui aurait pu être un monologue et un seul en scène en même temps, pourquoi vous vous êtes dit, eh bien, mon clown blanc à moi, il a besoin d'un auguste, ou d'une auguste, je sais pas comment il faut le dire.
Une auguste, une figure en tout cas clownesque de type Auguste, rôle joué par Marine Barbary, rôle muet, donc oui, pourquoi il avait besoin, mais j'avais besoin de montrer quand même un certain nombre de choses. Il suffit pas de le dire par les mots, de dire comme il le dit, les gens du peuple, je ne sais pas si c'est un des extraits que vous avez choisi, mais il parle des gens du peuple, hein, les gens du peuple, voilà, si vous voulez... Oui. Avoir les faveurs des gens du peuple, hein. Le peuple accorde ses faveurs aisément, comme dit Mazarin, et il joue avec ça. Je voulais que le peuple soit présent. Et la peuple, figure de l'Auguste, voilà. C'est le peuple.
Est-ce que vous êtes effectivement un Auguste dans votre tête quand vous jouez ce personnage de servante muette, Marine Barbary ? Parce que vous n'avez pas les grandes chaussures, ni le costume à carreaux, ni la grosse bouche blanche, ni même le nez rouge.
Non, effectivement, mais... Je pense que c'est une Auguste un peu particulière, mais que ça reprend quand même les codes du jeu clownesque, puisque je suis en rôle muet et qu'il y a quand même des similitudes qui sont présentes. Mais je me suis créé un peu mon clown à moi avec ce costume, avec ses mimiques. Et voilà, donc oui, je me considère comme une Auguste en tout cas.
Mais quelle place justement le personnage de clown et singulièrement de l'Auguste a pris dans votre parcours artistique à vous ? Parce que bon, François Génie, clown blanc depuis des années, on le sait, et vous, Marine Barbary ?
Moi, j'ai rencontré François parce que je jouais un spectacle avec une compagnie où je jouais une sorte de clown aussi, puisque je suis dans un rôle avec sans parole, en grommelot, comme on dit. Et donc, j'ai toujours été passionnée par ça. Je suis une grande fan de Chaplin, de Buster Keaton, parce que je trouve ça fabuleux de pouvoir jouer sans rien dire et de pouvoir faire comprendre des choses sans mots. Et c'est les retours qu'on peut avoir d'ailleurs du public qui me disent on voit beaucoup de choses et pourtant vous ne dites rien. Mmh. Et moi je trouve ça génial.
Alors justement, on est à la radio, alors c'est peut-être encore plus compliqué. Quoique, quand on ne parle pas, comment on fait pour exprimer ses émotions ?
Eh ben, on travaille son écoute, mais aussi sa présence, en fait. C'est d'être tout le temps connecté à l'autre. Je pense que le duo, c'est un très bon exercice, puisque du coup, on a quelqu'un en face avec qui il faut être connecté en permanence. C'est quelque chose de physique. C'est un très bon exercice pour l'acteur, je trouve, puisque on n'a pas moyen d'exprimer avec des mots, mais justement, il faut que le corps parle. Et je trouve que l'acteur a besoin de son corps, de toute façon, pour s'exprimer.
Alors, vous avez utilisé un mot intéressant, c'est le mot « présence ». Et pour moi, depuis que je fais cette émission, c'est peut-être le mot le plus mystérieux du vocabulaire du théâtre. C'est quoi une présence scénique, Marine Barbary ?
Eh bien, c'est d'être là, c'est de faire en sorte que le public soit attiré quand même par vous, sans que vous n'ayez rien dit. De pouvoir avoir des retours où des gens vont vous dire « je me suis raconté plein de choses, est-ce que c'était ça ?» Et moi, j'aime bien laisser le mystère et ne pas expliquer forcément ce que moi, je me suis raconté. Ce que je trouve génial, c'est que moi, je me raconte mon histoire, mais que chacun puisse se raconter quelque chose aussi qui n'est pas complètement différent, mais se dire « ah, il y avait quelqu'un qui m'a intéressé, j'ai regardé ». J'ai vu des choses, je me suis raconté une histoire et pour moi, ça, c'est le principal.
Oui, et d'ailleurs, vous instaurez dès le départ une vraie complicité avec le public. D'ailleurs, vous êtes présente sur la scène du théâtre au moment où les spectateurs entrent. C'était indispensable, ça, François Génie ? La question s'adresse cette fois au metteur en scène que vous êtes, d'avoir la servante déjà sur place avant même votre personnage à vous ?
Ben oui, elle est prête à tout parce qu'elle est obligée de faire énormément de choses. Elle est très active pendant l'ensemble du spectacle et là, elle est prête avec tout le matériel qui lui sera nécessaire pour accomplir toutes les tâches qu'elle doit accomplir.
Oui, il y a beaucoup d'accessoires, hein, pour le coup. Ils sont quasiment tous là depuis le début depuis le début du spectacle. Et moi, ce qui m'a frappé dès le départ, Marine Barbary, c'est votre sourire. Est-ce que vous avez travaillé particulièrement le sourire, vos gestes de bouche, dont on se dit en permanence qu'elle va en sortir des mots, qui va en sortir des mots de ses lèvres. Évidemment, les mots ne viennent jamais. Mais est-ce que vous avez particulièrement travaillé votre sourire?
C'est quelque chose qu'on m'a redit plusieurs fois et j'ai du mal à savoir quelle tête je fais à ce moment-là. C'est quelque chose que j'ai trouvé au fur et à mesure puisque j'avais besoin de construire ce personnage qui n'avait pas de mots justement, donc une posture. C'est en ça que je dis que je me suis beaucoup inspirée de clown et du coup que j'ai trouvé au fur et à mesure cette identité de cette servante, en me racontant des choses à l'intérieur, ça a pu peut-être faire sortir cette mimique.
Mais vous racontez des choses qui ont un lien direct avec votre partenaire de scène et avec le texte du bréviaire, ou bien vous racontez des histoires complètement différentes?
Ça peut aller de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis toute seule au plateau comme au début, donc là c'est ma petite histoire, je suis prête, effectivement, elle est organisée, elle a des choses à faire, elle est là pour son travail, elle sait ce qu'elle fait, et en même temps je la vois un peu comme une personne qui peut aussi s'évader dans son travail. Les choses que je fais sont très répétitives, c'est des choses très techniques, l'habillement, effectivement le maquillage, et peut-être que des fois elle a besoin de s'évader un petit peu à l'extérieur, comme on peut voir quelqu'un travailler dans la vie et à un moment donné être un peu perdu. Et c'est ce qui permet, je pense, au public de se raconter aussi autre chose et peut-être de partir à un moment donné et de revenir à ce qui se passe aussi.
Le sourire et le regard, ça fonctionne vraiment ensemble?
Ça, oui, je pense que ça fonctionne. On parle par les yeux, par le visage aussi. Un acteur qui aurait un texte et qui ne le vit pas physiquement, pour moi, n'exprime pas grand-chose. Il faut que ça aille de pair, en fait.
Et en répétition, vous avez travaillé devant un miroir. La question est peut-être un peu bête, parce que peut-être que vous avez utilisé aussi des spectateurs. Hein. C'est tout à fait possible. Mais est-ce que vous aviez besoin de voir vous-même le visage que vous rendiez à la salle, a fortiori parce qu'il s'agit justement d'un rôle muet?
Alors, devant un miroir, non, parce que je pense qu'il y aurait trop de jugement de ma part de me dire « Oula, c'est trop compliqué, ou c'est bizarre, ou ça marche pas ». Mais effectivement, on a travaillé avec des personnes extérieures qui ont été d'une grande aide aussi là-dedans. Je pense évidemment à Vincent, qui nous a beaucoup aidés.
Oui, Vincent Kuenz, qui est professeur de direction artistique à l'École supérieure des arts du cirque à Bruxelles.
D'accord, donc c'était important d'avoir un regard comme ça extérieur pour
oui,
le coup,
parce que lui,
qui se mette à la place du spectateur ou des spectateurs.
Oui, voilà, ou qui avait un peu d'habitude aussi dans les numéros un peu clownesques et qui a pu, parce que c'est très rythmique en fait, cet aspect de clown, il faut savoir prendre le temps et en même temps le saisir quand il est là pour créer des images et des effets. Et là-dessus, moi j'ai eu besoin de ce retour-là et je pense que le spectacle est différent tous les soirs, évidemment parce qu'on est au théâtre, mais parce que c'est aussi en fonction du public et des gens qu'il y a dans la salle, alors ça change pas complètement, mais je ne me dis pas à tel moment je fais ce petit sourire en coin de bouche ou pas. Oui. Ça vient quand ça vient.
En tout cas, en ce qui concerne les gestes, on a vraiment l'impression d'un vrai travail de précision, quoi. Comme si la mécanique, parce qu'il y a beaucoup de mimes évidemment, mais comme si la mécanique comique résultait justement d'un travail extrêmement précis.
Mais ça, on est
pense par exemple à la scène de la chaise pliante, par exemple.
Ça, c'est obligatoire. Fait partie du numéro de clown. Quand on regarde effectivement les grands comme Buster Keaton ou Charlie Chaplin, on a ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression que rien n'est préparé. Mais en fait, tout est répété, re-répété. Et c'est la beauté de ce travail-là de clown, je trouve. C'est de pouvoir faire croire que rien n'est prêt et qu'en fait, tout est orchestré au millimètre.
Oui, orchestré, effectivement. Et le chef d'orchestre, c'est aussi un peu vous en tant que metteur en scène, François Chenis, mais aussi en tant que comédien, parce que dans le rapport que votre personnage a avec la servante incarnée sur scène par Marine Barbary, tout fonctionne plus finalement par le geste, par le mouvement de tête, par l'attitude que vous avez, que par les mots que vous prononcez.
Ah ben oui, et puis en même temps c'était nécessaire de par le caractère même du personnage du politicien. C'est un patron, il n'a pas besoin de dire grand-chose pour qu'on le serve, et pour qu'on le serve bien. Et il peut arriver qu'on le serve mal, qu'on se trompe. C'est ce qui arrive d'ailleurs à un moment donné.
Oui.
Et c'est très désagréable quand on est patron. Et on ne devrait pas avoir besoin de dire grand-chose pour que cela fonctionne. On a travaillé là-dessus, sur ce rapport-là, sur ce rapport de suggestion qui est terrible, qui est extrêmement
violent, même s'il ne s'exprime pas comme ça.
Mais tellement courant, dans la vie courante, on en connaît tous des gens comme ça. On connaît tous des dominateurs qui se comportent comme ça. C'était ça qui était intéressant. Je reviens sur l'histoire de la précision. Marine a tout à fait raison, on a travaillé sur la précision, on a travaillé sur le rythme aussi. Il fallait que les choses soient ordonnées, parce que le texte a son rythme, les moindres gestes doivent être dans le même rythme. C'est ce travail-là qui a été vraiment accompli grâce à Marine et aux comédiens que je suis, mais aussi aux personnes qui ont joué le rôle de regard extérieur.
Oui, votre personnage, Marine Barbary, obéit au doigt et à l'œil, hein, finalement, au sens propre de l'expression. En même temps, comme elle l'assiste vraiment dans toutes ses tâches quotidiennes, on se dit qu'on n'est pas très loin, finalement, de la dialectique du maître et de l'esclave cher à notre ami Hegel, quoi.
Oui.
Il y a cette forme de double dépendance.
Oui, oui, mais qui peut être aussi très actuelle encore aujourd'hui dans certains travaux. Des gens qui accomplissent des tâches très répétitives, tous les jours la même chose, parce qu'ils servent quelqu'un qui est au-dessus d'eux, en fait. Je trouve que le texte est actuel, mais cette relation aussi de servante, elle est aussi très actuelle encore aujourd'hui.
Ouais, et quand le chat dort, la souris danse.
Kisses of the sun, when sweet I didn't quit, I let it in my eyes, like an exotic trip. The radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Oh, no, 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 the word goes la 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 la, it goes around the world just la 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 la, it's all around the world just la 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 la, and everybody's singing la 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 la.
Candy, Ein kleines Lied dans VMDN sur RFI, avec François Génie et Marine Barbary pour leur spectacle Politicien, à l'affiche du Théâtre des Déchargeurs à Paris, les mercredis, jeudi, vendredi et samedi, jusqu'au 26 novembre. Ce titre, d'ailleurs, Politicien, comment il s'est imposé à vous, François Génie ?
Je pense que vous vous souvenez sans doute de ce qu'avait dit, je crois, François Mitterrand lors de l'affaire avec son ancien Premier ministre qui s'est malheureusement suicidé.
Pierre Bérégovoy.
Et où il parlait des chiens qui étaient des journalistes, etc. Je trouvais que, en fait, je renvoyais les politiques à la vie canine et au cynisme. Le cynisme vient étymologiquement du chien. Et je trouvais que c'était assez juste, c'était assez simple. D'ailleurs, je crois que c'est même... J'ai pas revérifié, mais il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais tu sais que ce mot existe dans le dictionnaire. »
Ah bon?
Oui, paraît-il.
Je vais aller regarder ça en sortant du studio, alors c'est intéressant. Alors, Marine Barbary, en répétition, un metteur en scène est aussi un homme de pouvoir, ça n'a échappé à personne. On dit d'ailleurs qu'il dirige ses comédiens, en l'occurrence il en dirige deux, puisqu'il dirige, il se dirige lui-même et puis il vous dirige vous. Est-ce que François Génie, dans son travail, applique les bons conseils du bréviaire des politiciens de Jules Mazarin? Il ne vous entend pas, il ne vous écoute pas, vous pouvez y aller.
Non, parce qu'en fait, ça a été... effectivement, c'est le metteur en scène, mais ça a été quand même assez libre dans la création, puisque François avait écrit des phrases pour organiser des numéros par rapport à ce que j'allais faire. Mais tout s'est trouvé assez facilement en répétition. Il m'a laissé beaucoup de liberté sur ce que je devais faire. C'était écrit, mais ce n'était pas détaillé. Donc tout s'est fait à deux, en fait, et même à trois, du coup, avec Vincent, qui était le regard extérieur, puisqu'on a testé plusieurs choses. Donc il n'y a pas eu de contraintes énormes dans le travail. En fait, François m'a juste dit, voilà, je voudrais qu'il se passe ça, ça et ça. Et puis après, nous, on a pu découvrir, construire, essayer des choses, trouver des numéros, gommer, remettre. Et même encore, aujourd'hui, on est capable de se dire à la fin du spectacle, là, je pense que le rythme était moins bon, là, je pense que ça, moi, je voudrais changer ça, OK, il n'y a aucun problème. Et puis on retravaille. Et de toute façon, c'est du théâtre, c'est de l'art vivant, donc ça bouge en permanence.
Mais c'est un travail directement au plateau ou bien il y a eu tout un travail au préalable, même pour vous qui n'avez pas de texte, sur justement les mots du bréviaire de Mazarin?
Non, on a fait directement au plateau. Et en fait, c'est ça qui était intéressant, c'est que moi, au fur et à mesure des répétitions, j'entendais de nouvelles choses du texte, puisque c'est quand on a commencé à filer et à travailler aussi les parties de François que moi, j'ai découvert au fur et à mesure, même si j'avais lu le texte avant. Mais effectivement, les réactions de la servante par rapport au texte du politicien sont venues petit à petit, en fait.
Alors, par exemple, on va pas tout révéler, mais il y a un passage que j'ai trouvé absolument délicieux. Et je voudrais juste que vous nous en expliquiez la naissance, François Génie, c'est le coup de l'allumette. Parce que là, on n'est pas dans l'illustration d'un texte. On introduit un élément perturbateur, différent. Alors, il ne faut pas que le spectateur perde le fil de ce que vous dites. Et en même temps, il y a un jeu très drôle entre elle et vous qui dure quand même quelques répliques.
Oui. Ben, c'est-à-dire qu'il veut fumer une cigarette, donc elle lui apporte une cigarette, elle a le cendrier qui va avec, et elle a des allumettes pour lui allumer sa cigarette. Jusqu'ici, rien que de plus normal.
Voilà.
Mais évidemment, la servante, des fois, elle n'est pas complètement réglée pour allumer une cigarette. De son côté, elle est des fois un peu maladroite.
Oui.
Et de l'autre côté, ben, le politicien, lui-même, il ne fait pas très attention. Il choisira le moment où on lui allume sa cigarette. Elle peut être prête avant, et bah, il n'est pas là, donc elle est obligée de réessayer avec une autre allumette. Et ça, c'est un numéro qui est venu petit à petit, qui s'est fait, et c'est vraiment Marine qui a aussi trouvé les astuces pour que les allumettes durent ou s'éteignent, etc. Et c'est un jeu vraiment... Là, on est réglé quand même. On est réglé l'un et l'autre. On sait exactement... Moi, je sais exactement à quel moment je vais allumer ma cigarette en tant que comédien. Le spectateur ne le voit pas,
non.
Mais tant mieux.
Mais donc,
mieux,
travail de précision, là mais, encore.
Ben bah, oui.
Alors, petite curiosité aussi, pourquoi est-ce que vous passez votre temps à remonter votre jupe c'est une jupe longue. Hein,
c'est une jupe longue, effectivement. Alors, pourquoi, je ne sais pas, parce qu'elle glisse, en fait.
Oui, c'est une bonne raison, vous allez me dire.
Elle glisse en permanence, et puis parce qu'en fait, je pense que quand on a essayé le costume, on ne s'attendait pas à ce que je bouge autant, on le savait. Et puis, en fait, au fur et à mesure des répétitions, je me suis rendu compte qu'en fait, elle bougeait beaucoup. Et je me suis dit qu'en fait, si lui était impeccable, il fallait qu'elle soit impeccable. Donc, je ne me voyais pas rester tout le spectacle avec cette chemise qui ressort, il faut toujours qu'elle remette. Donc j'ai trouvé ce petit mouvement un peu que je répète régulièrement de hop, remonter la jupe pour être nickel.
Oh solitude, my sweetest choice. My sweetest choice, places devoted to the night, removed from tumult and from noise.
Avec François Génie et Marine Barbary pour le spectacle Politicien à l'affiche du Théâtre des Déchargeurs à Paris, dans le quartier des Halles, les mercredis, jeudis, vendredis et samedis jusqu'au 26 novembre. Alors cette chanson, elle s'intitule « Oh, solitude », c'est une chanson de La Nena et elle est dans le spectacle. Pourquoi vous l'avez choisi, François Gagné ?
Mais d'abord, c'est un morceau qui a été composé par Henry Purcell. C'est un morceau de musique baroque. Alors, ça n'est pas tout à fait la même période que Mazarin, puisque Purcell, c'était un peu après. Mais parce que dans le texte de cette chanson, il est dit, on parle de solitude et on dit c'est cette solitude que j'ai choisie. Et je suis seul, mais j'adore être seul, en fait. Je traduis vraiment très librement. C'est ce qui est dit dans cette chanson. Alors, je ne pense pas que Henry Purcell l'ait écrite en pensant au pouvoir, mais moi, je me suis dit, oui, l'homme politique, comme le dit Mazarin, et je pense que la plupart des hommes politiques, il y a des moments, ils sont seuls, ils savent qu'ils sont seuls. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des ennemis, il n'y a que des adversaires, il n'y a que des obstacles. Donc, je suis tout seul, je ne peux faire confiance qu'à moi-même. Et c'est de profiter de cet instant. C'est la chanteuse du groupe Moriarty qui a fait une reprise de ce morceau de Henry Purcell.
Voilà, et c'est vrai qu'on a presque l'impression, nous, dans la salle, en tant que spectateur, que c'est un moment d'empathie avec, justement, le politicien, quoi, comme si vous vouliez, justement, marquer la solitude du pouvoir et nous faire comprendre que, finalement, il n'est peut-être pas aussi cynique et aussi désabusé qu'on pourrait le penser.
Oui, sans doute, d'ailleurs, sinon, on n'élirait pas toujours les mêmes, on ne vénérerait pas toujours les mêmes, enfin, pour certains, on serait beaucoup plus critique et on ferait la révolution. Or, cette révolution n'intervient toujours pas, à ce qui paraît. Et donc, ça veut bien dire que l'empathie pour quelqu'un qui a le pouvoir, c'est quelque chose de terrible, parce que des fois, c'est bien, mais des fois, on se dit, mais pourquoi on est empathique avec cette personne qui, finalement, nous persécute à l'arrivée ?
Votre personnage de servante, Marine Barbary, est-ce qu'elle a une forme d'empathie par rapport à celui qu'il faut bien appeler son patron ?
Moi, je pense que oui. À certains moments. Et puis, à certains moments, moins, on va dire.
Oui.
Un peu moins, sans dévoiler tout ce qui se passe. Mais c'est pour ça que je dis que des fois, elle part un peu, puis elle revient. En fait, elle fait son travail. Au début, elle ne se pose pas vraiment de questions. C'est comme ça, il est là. Elle travaille pour lui. Bon, voilà. Et puis, les choses changent au fur et à mesure du spectacle. Mais,
le peuple progresse, pour
exactement. Exactement. Au début, pour moi, elle est très naïve, quoi. En fait, elle fait son travail et puis, au fur et à mesure, elle prend des positionnements et des décisions, quoi.
Alors, sur l'affiche du spectacle, il est écrit qu'il s'agit d'une dramédie clownesque. Alors, on a beaucoup parlé de la partie clownesque tout à l'heure, François Gagné. Mais pour rien vous cacher, je ne connaissais pas, moi, le mot de dramédie.
Oui, c'est un mot valise, comédie oui. et drame. C'est-à-dire que le théâtre voulait à tout prix que je qualifie ce spectacle, que je dise est-ce que c'est une comédie, est-ce que c'est un drame, est-ce que, etc. Et je dis c'est ni l'un ni l'autre, c'est une dramédie.
Ben, voilà. Vous auriez pu dire tragicomédie, non, ça aurait été trop fort, le tragique.
Oui, le tragicomique, non.
On n'en est pas là.
C'est pas tragique, c'est dramatique, oui. C'est dramatique. Il y a quelque chose. Oui, l'empathie, je reviens, mais c'est ça qui est dramatique. C'est la solitude, finalement, c'est un pauvre type, quoi, au bout d'un moment. Il a beau avoir tous les préceptes les plus aiguisés pour accéder au pouvoir et y rester, c'est un pauvre type, quoi. Il y a des moments, je pense que moi, si j'étais public, il y a des moments, je regarderais ce type-là, je dirais, mais t'es vraiment un pauvre type.
Bah oui, c'est un petit peu effectivement ce qu'on peut se dire, François Gagné, mais est-ce que vous diriez que pour lui, alors si on rentre effectivement dans la psychologie de ce politicien, est-ce que c'est un jouisseur du pouvoir ? Est-ce que c'est mieux que ça ? Est-ce que c'est un esthète du pouvoir que ce politicien ?
Ah, ça c'est... Je m'attendais pas à une question comme celle-là. Est-ce que c'est un jouisseur du pouvoir ? Je crois pas qu'il jouisse du pouvoir. Je pense qu'il est là où il doit être. Je pense que... je parle pas de Mazarin, je parle de politicien, du personnage
Je
joue. Parce que Mazarin, à mon avis, il y avait une forme de jouissance et surtout le souci de s'enrichir, puisque à la fin de sa vie, c'était l'homme le plus riche d'Europe. Donc, il était même plus riche que le roi. Donc, c'est dire. Mais non, le politicien, il y a une sorte, esthète du pouvoir, c'est plus proche de ça, c'est-à-dire arrivons à l'excellence et restons à cette excellence. C'est ça,
un artiste.
Ce personnage. Une sorte d'artiste de la chose, oui, mais convaincu qu'il n'y a que le chemin que lui propose qui est le meilleur.
Simule. et dissimule. Quand tu as à choisir entre la facilité et la grandeur, choisis la facilité. La grandeur emmène toujours avec elle beaucoup d'ennuis. Montre-toi l'ami de tout le monde. Bavarde avec tout le monde, y compris avec ceux que tu hais. Ils t'apprendront la circonspection. Des supérieurs ne dis que du bien. Loue particulièrement ceux dont tu as besoin. Ne fais confiance à personne. Les amis n'existent pas. Si on te dit du bien de toi, sois sûr qu'on se moque de toi. Si quelqu'un te prend à partie et t'insulte, pense simplement qu'il met ta patience à l'épreuve. Le danger dans un groupe de dirigeants, c'est quand un des membres devient trop puissant. Le bonheur est au centre. Évite les extrêmes. Les amis sont aussi les autres. Les autres. Les autres guettent ton premier instant de laisser aller pour te juger. De la tenue.
De la tenue, c'est un mot qui pourrait parfaitement s'appliquer aussi à un comédien ou à une comédienne sur un plateau de théâtre, Marine Barbary.
De la tenue.
De la tenue,
mmh,
oui,
exactement,
c'est quand même important. Ouais. Est-ce que votre regard sur la politique et sur le politique a changé depuis que vous travaillez sur cette pièce? Est-ce que vous les voyez différemment, les politiciens, après avoir travaillé le politicien?
Je ne sais pas si ça a changé complètement. Ça l'a mis un peu au cœur de ma vie, puisqu'on travaille beaucoup en ce moment et qu'on l'a travaillé aussi en juillet, qu'on l'a joué en juillet. Du coup, ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue, pas forcément sur ce qu'était la politique aujourd'hui et ce qu'étaient nos hommes politiques, mais plutôt d'où ça vient et depuis quand c'est présent à ce point-là et comment, effectivement, il y a des similitudes à ce point, en fait, entre ce qui s'est passé à l'époque de Mazarin et maintenant. Ouais.
Vous en avez déjà eu dans la salle des députés, des ministres, peut-être des élus municipaux, François Génie ?
Oui, il me semble qu'on a eu des élus du premier arrondissement qui sont
venus. En voisin.
Et il y a en voisin, et il y a un spectateur qui me l'a signalé et qui m'a dit il n'a pas beaucoup ri.
Ah, d'accord. Bon, en tout cas, on les invite à ceux qui nous écoutent à venir vous voir et à s'abreuver des conseils de Mazarin, en s'en méfiant quand même un tout petit peu, parce que bon, ça peut aussi finir mal. Merci beaucoup, Marine Barbary. Merci beaucoup François Génie, politicien à l'affiche du Théâtre des Déchargeurs à Paris, donc dans le premier arrondissement, du mercredi au samedi jusqu'au 26 novembre.
Je noircis des feuilles blanches à l'encre d'ébène, à l'encre de mes peines. Je m'époumonne sous la fureur du vent. Mes mots s'envolent comme des nuages mouvants. On me tue chaque jour dans la langue de Molière. Je rends chaque coup dans la langue de Césaire. Poète noir, je chante ma solitude. J'habille des espoirs que l'aube dénude. Je m'inspire de feuilles mortes aux couleurs d'automne. Ma poésie naît où l'été s'endort quand l'hiver chantonne. Puisqu'écrire c'est oser, j'ose sans demi-mesure. J'ai des souvenirs pourpres à en faire rougir l'azur. Je viens des tours de ciment à perte de vie. Cimetière d'illusions où se terrent les envies. Quand les lendemains ne font même plus de promesses, mourir à 20 ans peut te sembler romanesque. À traîner le jour, j'ai vu naître la nuit. On a longtemps cru que vivre c'était tuer l'ennui. L'égalité, je crois la voir en silhouette. Ce soir où la pauvreté pointe un flingue sur ma tête. Je noircis des feuilles blanches à l'encre d'ébène, à l'encre de mes peines. Je m'époumonne sous la fureur du vent. Mes mots s'envolent comme des nuages mouvants. On me tue chaque jour dans la langue de Molière. Je rends chaque coup dans la langue de Césaire. Poète noir, je chante ma solitude. J'habille des espoirs que l'ombre dénude. Jugé sur mon teint, j'écris à l'instinct. J'ouvre les bras au monde, mais seule la peine m'étreint. Alors sourire forcé, je ne serai jamais français. Ici les fils de colons ont peur d'être grand remplacé. Au soleil levant, c'est un drôle mes jours. Et la France en moi, la guerre civile d'Eric Zemmour. Peur des différences ou panique sanitaire. Les moutons masqués trouvent la dictature salutaire. Je mène une vie de poème, je m'émancipe en lettres. Je n'attends pas qu'on m'aime, j'exige qu'on me respecte. À chaque instant je meurs, je ne suis pas grand chose. Peut-on rendre le monde meilleur en semant des pétales de bronze?
Le poète noir et la voix de Kerry James dans VMDN, un morceau qui donne aujourd'hui son titre à un recueil de textes publié par les éditions Actes Sud, un livre qui marque les 30 ans de carrière de cette figure incontournable du rap français, née il y a bientôt 45 ans aux Abîmes, en Guadeloupe, Hortense-Vol.
30 ans de carrière déjà. Et oui, car Kerry James, débarqué à l'âge de 8 ans en région parisienne, est entré très jeune dans le game. Il a 15 ans en 1992 quand sort son premier maxi avec le groupe Ideal J. L'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui ne contient aucun texte de cette époque hardcore, mais s'ouvre par les paroles d'un morceau bel et bien fondateur, 28 décembre 1977, extrait du premier album solo de Kerry James, paru en 2001 et certifié disque d'or.
28 décembre 77 aux Abîmes, je suis né. J'ai une famille plus proche des pauvres que d'être fortuné. Mes parents sont originaires d'Haïti, terre indépendante que mon cœur a choisi pour pays.
L'ouvrage Le Poète Noir se referme par le texte du morceau du même nom sorti cette année. Entre-temps, ce parolier percutant qui a toujours saisi la réalité de la société française avec une grande acuité pour mieux bousculer les consciences a livré 6 albums studio. Son recueil compte aujourd'hui 22 textes essentiels, décryptage.
Les textes qui figurent dans ce recueil, je les ai choisis moi-même. Et il s'agissait des textes les mieux écrits, les plus pertinents, les plus représentatifs aussi de la pensée générale que je développe dans ma musique. Que ce soit la dénonciation de certaines injustices, mais aussi la remise en question des gens que je prétends défendre et représenter, les Africains, les Noirs, enfin les Français d'origine africaine, c'est comme ça qu'il faudrait dire apparemment, les Noirs, les Arabes, et l'autocritique de nous-mêmes, mais toujours avec amour et respect.
Compiler et publier ces textes, Kerry James l'a déjà fait il y a 10 ans avec l'ouvrage 92-2012, 20 ans d'écriture. À l'heure où la retranscription des chansons est accessible en ligne, celui qui est également acteur, dramaturge et réalisateur récidive et nous explique pourquoi.
Pour moi, le format livre, il est important parce que on est dans une société où on n'accorde pas la même importance à l'auteur d'un livre qu'à un rappeur. Et donc c'est une façon de m'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus large. Et en plus, je trouve que on n'est pas beaucoup de rappeurs qui peuvent avoir la prétention d'écrire leurs textes et de les faire lire. Et qu'on en comprenne la portée ou la beauté ou la poésie.
Le Poète Noir, c'est un morceau et bientôt un album du même nom. C'est un recueil de textes disponible en librairie et c'est aussi une tournée de concerts acoustiques.
C'est un concept que j'avais lancé en 2012 au Théâtre des Bouffes du Noir. On était resté 3 semaines. Je suis sur scène, j'ai que 2 musiciens et qui sont un percussionniste et un clavier. Et c'est vraiment le mot, la parole qui est mise en avant là. Beaucoup des textes que contient le recueil Le Poète Noir, je vais en interpréter une très, très grande partie. Et les musiques sont un peu revisitées, les gens sont assis, sont à l'écoute. Et bien sûr, bon, à la fin quand même, ça se termine toujours en général. C'est un peu plus mouvementé, mais vraiment c'est le mot qui est à l'honneur, quoi.
Et il est fort à parier que vous pourrez vous procurer le recueil de Kerry James, Le Poète Noir, paru chez Actes Sud lors de la tournée de concerts qui passe notamment par Paris et par le Théâtre National de Chaillot les 18 et 19 novembre prochains. C'était Hortense Vol pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec un premier roman, La Dissociation, de Nadia Yala Kisukidi, livre paru aux éditions du Seuil, et vous m'en direz des nouvelles.